être un agitateur d'idées sur la jeunesse pour proposer plein de choses et avoir des go ou pas de la part des politiques, notamment la première ministre et le président de la République. Essayer de mobiliser au maximum sur le sujet de la jeunesse. L'entrepreneuriat dans l'État, c'est quand même possible et ça marche. On a ce mode un peu agile, il existe. C'est parfois pas facile en prise de décision, mais il y a des poches de création de services comme ça qui sont super chouettes et on a encore plein de trucs à développer. À un moment donné, quand t'entreprends, t'es quand même le responsable de ton bateau, mais à la fin, c'est toi et toi-même. Je trouve que c'est ça qui est assez beau. L'entrepreneuriat, c'est un peu se dépasser soi-même. Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrête d'être divisé.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir, alors c'est plutôt lui qui me reçoit, Mathieu Mocor, le délégué interministériel dédié à la jeunesse. Salut Mathieu, comment tu vas ?
Salut François, je vais pas mal. Pleine forme.
Je suis très content de pouvoir discuter avec toi sur un sujet particulier qui est très peu abordé, voire pas du tout en fait, dans les podcasts business entre guillemets, c'est le fait d'entreprendre au sein de l'État. Alors ça va être le sujet du podcast, mais je commence tous mes épisodes par la même question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi.
Écoute, moi j'ai vécu dans un environnement familial très heureux quand j'étais jeune. Mon papa travaillait dans des centrales nucléaires. Et ma maman a arrêté de travailler assez rapidement pour s'occuper de mes deux sœurs et de moi, puisqu'on était une famille de trois enfants, on est toujours une famille de trois enfants. Et du coup, j'ai grandi dans des environnements plutôt ruraux, parce que les centrales, elles sont rarement dans les centres-villes. Et donc j'ai grandi, je suis né dans les Yvelines, mais j'ai grandi de 0 à 10 ans à peu près en Gironde, près de Blaye, dans un petit village qui s'appelle Plassac, qui doit avoir encore aujourd'hui un peu moins de 1000 habitants. Et ensuite, j'ai été en Seine-et-Marne pendant 4 ans et de nouveau à Chinon, près de Tours, à 45 minutes de Tours quand même, pendant mes années de fin de collège et de lycée. Et j'ai vécu très heureux et je suis très heureux aussi d'avoir grandi dans ces milieux-là. Parce que tu vois, par exemple, quand j'étais petit, à Plassac, on était à l'école communale. C'était des classes, plusieurs classes dans une même classe. Donc, t'avais une classe de maternelle pour faire toutes les sections. T'avais le CM1, CE2 ensemble, le CM1, CM2 ensemble. C'était un environnement assez particulier parce que moi, j'habitais dans une cité EDF. Parce qu'à l'époque, c'était l'entreprise avait encore, je crois que maintenant ils ont vendu pas mal de biens immobiliers, mais à l'époque, donc tous mes voisins, c'était des gens qui travaillaient chez EDF aussi, ce qui quand t'es petit est pas du tout dérangeant, mais quand tu réfléchis avec un peu de recul, tu te dis quand même, on est entouré par des gens qui travaillent dans le même milieu. Puis à côté, les gens qui étaient les parents de mes amis à l'école, c'était plutôt des parents de profession plutôt agricole ou petit commerce du coin. Et en fait, un milieu qui était génial et en même temps un peu fermé. Et qui était pas du tout gênant quand j'avais 7 ou 8 ans. Mais je pense que je suis content de pas avoir grandi que là. Parce que sinon, je pense que mon champ d'horizon aurait été un peu plus
D'avoir
plus
testé plusieurs environnements. Ouais, c'est vrai qu'il y a le côté communauté avec ses avantages et ses inconvénients aussi.
Ouais, t'es un peu enfermé dans le truc. Et puis l'autre chose qui était sympa à vivre, c'est le fait d'être dans une zone vraiment vraiment rurale. Plassac, vraiment petit village à côté de Blaye, qui est une ville un peu plus grosse, mais ça doit être quelques milliers d'habitants. Pas de train pour aller à Bordeaux. La seule moyen, c'était le bus ou la voiture. Moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de tennis et j'étais pas trop mauvais. quand j'étais petit. Après, c'était moins bien. Mais quand j'étais gamin, j'étais plutôt bon. Et du coup, je faisais les entraînements tous les mercredis à Bordeaux. Et pour ça, en fait, il y avait que la voiture. Et donc tout ce côté, tous ces sujets de mobilité, on en reparlera probablement un moment pour les jeunes. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, je l'ai connu quand j'étais gamin. Et puis quand j'étais à Chinon, quand j'étais plus adolescent, j'ai fini par faire un bout de mon lycée à Tours aussi. Mais quand j'étais à Chinon, pareil, si j'avais pas la voiture, c'était compliqué. Là, pour le coup, il y avait le TER. Mais qui passait, le dernier, il était à 18h36, je me souviens. Et du coup, si tu rates le 18h36, tu peux pas rentrer de Tours à Chinon, et c'est la galère. Et donc, ces problématiques-là, de l'accès au TER, de l'accès au bus, du covoiturage, de l'accès à la voiture, dans les zones un peu plus éloignées des centres-villes, moi, je l'ai connu, donc ça me parle un peu. Après, maintenant, ça fait des années que je suis à Paris, mais voilà, j'ai des souvenirs assez précis,
ouais,
de tout ça.
J'imagine. Est-ce que tu te souviens de ta première passion?
Ma première passion,
c'était le tennis, ou est-ce qu'il y avait un autre?
Ah, franchement, non, mais vraiment, le tennis, j'étais un fou de ça. Je jouais sur la porte du garage à la maison. C'était un garage tout blanc, et j'avais un deal avec mes parents, c'est qu'il fallait que je nettoie parce que ça faisait les traces, les balles, et je passais ma vie à faire ça. C'est-à-dire que j'étais à l'école, ensuite je rentrais, je jouais au tennis contre la porte du garage. Je pense que ça devait faire un bruit de fou pour les voisins, mais comme on était un peu au milieu de pas grand-chose, c'était pas très grave. Ouais. Et ouais, ma première passion, c'était ça. Et la deuxième, c'était le chant. J'ai une maman qui était chef de chœur et qui nous a fait, mes sœurs et moi et plein d'autres gamins, chanter dans une chorale qui s'appelait la Contourelle. Et donc j'ai fait des petits concerts aussi quand j'étais enfant, et c'est aussi un petit virus, la musique, que j'ai gardé pour la suite.
On va parler un peu de tes études. Comment est-ce que tu as vécu tes études? Il était comment le Mathieu pendant ses études?
Franchement, il était plutôt heureux. Tu sais, quand on fait un peu de politique, ou quand on n'est pas loin comme moi, parfois c'est mieux d'avoir une histoire où on raconte que on a vécu des trucs hyper durs, etc. Sincèrement, j'étais heureux moi quand j'étais enfant. L'élève Mathieu, il était franchement plutôt bon élève, un peu turbulent, un peu agité en fond de classe quand même, mais j'avais des bonnes notes. Du coup. Moi, j'ai vécu mon collège et mon lycée en ayant un peu le joker de je peux faire deux trois conneries parce que j'ai les bonnes notes, et j'étais pas mauvais en sport. Du coup, j'étais quand même pote avec pas mal de monde parce que je tapais les copains un peu au foot ou en course à pied. Et du coup, le Mathieu jeune, il était plutôt plutôt heureux. Après, j'ai vécu les trucs que tu vis dans l'adolescence, la puberté, un peu d'acné, etc. Tu vois, tout était pas parfait. Le jour où on me dit Mathieu, t'es myope, faut mettre des lunettes. Là, c'est le premier traumatisme de ma vie à l'âge de 10 ans. Mais tu vois, premier traumatisme à l'âge de 10 ans, mettre des lunettes, ça va. Mon enfance, ça allait.
Ouais, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique?
Écoute, je pense que j'ai grandi en me disant qu'il y avait plein de trucs qui me paraissaient bizarres. Je comprenais pas la logique. Et du coup, assez vite, je me suis intéressé à comment ça marchait, le monde. Et tu vois, quand j'étais petit, par exemple, je me souviens, je me demandais pourquoi on n'avait pas des petits trains qui venaient, qu'on pouvait commander automatiquement, des petits wagons qui venaient devant chez nous pour pouvoir nous transporter quand on avait besoin. Et pourquoi, en gros, moi, je crois que j'étais déjà un peu libre dans ma tête, j'avais pas envie d'être dépendant de mes parents pour me balader. Et tu vois, j'imaginais comment on pouvait faire des petits circuits de train un peu partout, qu'en fait un mini tramway, quoi, que j'étais en train d'inventer dans ma tête sans savoir que les tramways, ça existait. Et puis à l'époque, il y en avait beaucoup moins. À l'époque, c'est terrible, tu vois, je suis un vieux. Et je pense que ça vient de là. Et puis je pense que j'ai aussi des parents qui m'ont toujours poussé à regarder ailleurs. J'avais aussi des figures, j'avais deux grands-mères géniales, l'une qui était infirmière et l'autre qui était très impliquée dans la Ligue contre le cancer. Et j'ai toujours eu ces figures-là qui m'ont un peu inspiré sur le fait de donner un peu.
De s'engager finalement.
Ouais, s'engager. Ah, okay. Alors après, quand tu le fais en politique, ou tu le fais, il y a toujours une part de pour toi aussi, tu vois. Il y a quand même cette idée d'essayer de faire le faire le max pour les autres. Et puis moi, si tu veux, en fait, au fond, je sais pas trop pourquoi on est là sur cette planète. Tu vois, j'ai pas résolu la question du sens profondément. Et moi, ma manière de la résoudre, c'est d'essayer de donner du sourire à d'autres gens, d'aider d'autres gens à aller mieux. Et la politique, c'est un des moyens. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. Après, il y a d'autres manières hein, d'essayer
comme l'entrepreneuriat aussi.
L'entrepreneuriat en fait partie. Et c'est pour ça que faire un peu de l'entrepreneuriat à l'intérieur de la politique, c'est assez cool.
En janvier dernier, tu es nommé du coup délégué interministériel dédié à la jeunesse. En quoi ça consiste, ce job, finalement?
C'est une bonne question, parce que effectivement, le titre veut tout dire et rien dire. Honnêtement, c'est un job auquel tu donnes le contenu que tu veux. Moi, ce que m'a demandé la Première ministre, que je suis nommé auprès d'elle, c'est de faire deux choses. La première, c'est d'accélérer pas mal de prises de décision sur les jeunes. Comment on sort des trucs utiles pour chacun. Ça va des préservatifs gratuits pour les moins de 25 ans, qui ça fait quelques mois que c'est en place, à ce qu'on va mettre en place l'année prochaine, les protections périodiques remboursées pour les jeunes femmes de moins de 26 ans pour les protections réutilisables, donc les cups et les culottes menstruelles. Ça, c'est le premier boulot, c'est être un agitateur d'idées sur la jeunesse pour proposer plein de choses et avoir des go ou pas de la part des politiques, notamment la Première ministre et le Président de la République. Et la deuxième fonction, c'est d'essayer de mobiliser au maximum sur le sujet de la jeunesse. Comment est-ce qu'on arrive à, par exemple, là tu vois, dans deux jours, il y a la Journée nationale de lutte contre le harcèlement, le 9 novembre. Je ne sais pas quand le podcast sera diffusé, mais peu importe. En novembre, il y a une Journée nationale de lutte contre le harcèlement. Et là, par exemple, moi j'essaye de mobiliser différentes personnalités pour qu'elle puisse relayer un message sur le harcèlement pour, tu vois, c'est pas un truc politique, mais juste dire attention, le harcèlement, faut qu'on fasse tous attention, tous vigilants. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de développer. Voilà, c'est un peu ouais. les deux fonctions.
Ok, très clair. Il y a aussi le Conseil national de la refondation, dans lequel fait partie quelqu'un que je connais un peu, Jules Citruc.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'en parler de cette initiative?
Ouais. D'abord, pour tous ceux qui connaissent pas Jules Citruc, tapez Protis Club dans Google et vous verrez que c'est un type génial qui aide des jeunes de tous les quartiers de Marseille à se retrouver et à leur faire du soutien scolaire quand ils sont lycéens pour les aider. Donc big up à lui. On a fait un truc pour réfléchir aux mesures que j'évoquais tout à l'heure, les protections périodiques, les préservatifs et autres, qui est que on s'est dit on va pas le faire tout seul. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore jeune, mais maintenant, j'ai 35 ans. Et les problématiques des jeunes, c'est surtout entre 12 et 25 ans. Donc, j'ai des souvenirs, mais ils sont malheureusement de plus en plus lointains. Et donc, on s'est dit, on va pas le faire tout seul. Donc, on va y aller à plusieurs. Et on s'est dit, du coup, on va consulter des jeunes. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait une consultation qui soit pas une énième consultation de plus, où on fait un peu semblant de demander leur avis à des gens et puis à la fin, on décide bien ce qu'on a envie de décider. Et donc, du coup, le schéma qu'on a pris, c'est on a créé un truc qui s'appelait le Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Le Conseil national de la refondation, c'est une initiative qu'a pris il y a un peu plus d'un an le président de la République pour réunir sur des sujets un peu d'intérêt général des gens d'horizons très différents et essayer d'aboutir à des consensus. Donc, on a créé un sous-groupe spécial sur les jeunes et on a fait deux choses principales. La première, c'est que on a réuni régulièrement une trentaine de jeunes autour de la Première ministre tous les mois, entre décembre et mai dernier, pour discuter d'égalité des chances, d'écologie, de participation citoyenne, de vie quotidienne, d'orientation, etc. Ça, c'était la première chose, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent directement parler à la Première ministre en lui disant « je vous recommande de faire ça ». C'était un peu le jeu. Tous ceux qui étaient invités, globalement, ils avaient 2 minutes de prise de parole pour envoyer une ou deux idées. Et le jeu, c'était un peu si j'étais première ministre pour les jeunes, je ferais bam, bam, bam. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie de ces jeunes-là, moi, je les ai mis dans un gros groupe d'une cinquantaine de personnes. Et on a bossé pendant 6 mois pour essayer de pondre des propositions. Par exemple, quand il y en avait qui arrivaient en disant on voudrait diminuer l'âge d'accès au permis de conduire. Parce que typiquement, dans les zones plus rurales, 18 ans, ça peut être un peu tard pour pouvoir trouver des stages, avoir une vie sociale, etc. OK. Donc là, la personne, on la prend. par la main, on lui dit « Ok, est-ce que tu es d'accord pour venir bosser avec nous la mesure ?» Et la personne disait « Ok ». Et derrière, je lui disais « Bah écoute, je t'ouvre les portes de plein de gens dans l'administration ou dans le secteur privé, des pure players en ligne, des auto-écoles. Voilà, je ne vais pas citer les noms pour pas faire de pub en particulier, mais vous les connaissez tous, les En Voiture Simone, etc. Donc là, pof, on fait le lien. On fait le lien avec des gens de la délégation interministérielle à la sécurité routière pour discuter un peu des enjeux d'accidentologie chez les jeunes. On fait le lien avec ceux qui s'occupent d'addictologie, du rapport aux drogues, etc. Aussi. Et puis à la fin, les jeunes en question, les 2-3 qui bossent sur la mesure, plutôt que de juste dire il faudrait faire le permis de conduire à tel âge, avant 18 ans, en fait, ils nous produisent un truc qui ressemble à une espèce de fiche de 2-3 pages qui dit bah voilà, en fait, on pourrait vouloir mettre le permis de conduire à 16 ans, mais on a regardé, il y a une directive européenne qui nous empêche de le faire, du coup, on va plutôt le faire à 17 ans. Pour le faire à 17 ans, on a regardé, on n'est pas obligé de passer par la loi, on peut passer par un décret. Et puis, est-ce que c'est vraiment une bonne décision de faire le permis de conduire à 17 ans ? Ben, on a regardé dans tous les pays autour qui font déjà de la conduite à 16 ou 17 ans, est-ce qu'il y a plus d'accidents à 16 ou 17 ans qu'à 18 ou 19 ans ? Ben, en fait, on a regardé, c'est pas le cas. Ensuite, on a réfléchi, on a parlé avec les auto-écoles, etc., pour se demander est-ce qu'on donne l'autorisation sans aucune limite ou est-ce qu'on permet d'avoir le permis à 17 ans mais sans conduire la nuit, par exemple, etc. Et puis, à la fin, il y a une recommandation très claire qui sort. Et ça, c'était un truc auquel moi, je tenais beaucoup, pour qu'on soit pas sur une consultation où, à la fin, on dise « Ok, merci pour vos idées, mais après, on doit aller bosser et du coup, on se retrouve dans un an. » Parce que le temps qu'on travaille, les propositions, ça prend du temps. Et du coup, on a abouti au mois de juin à ce que les jeunes nous ont proposé 30-40 propositions qui étaient un peu costauds, qui n'étaient pas juste un intitulé en une ligne, qui étaient vraiment les protections périodiques, voilà ce qu'on peut rembourser, il faudrait plutôt rembourser 3 culottes menstruelles par an plutôt que 2, et puis les culottes menstruelles, il faudrait que la composition ce soit ça, etc. etc. Et du coup, ça nous a permis d'appuyer sur le bouton de la décision, parce que le travail avait été déjà largement pré-mâché. Et donc, c'est une consultation un peu spéciale. C'est un peu une consultation très approfondie qu'on a faite, en se concentrant volontairement sur quelques mesures qui avaient une chance d'être décidées à la sortie. Et franchement, il en sort pas mal de choses. Je peux faire une liste plus longue, mais je ne veux pas faire trop long. Ouais. Mais...
L'idée, c'est vraiment d'avoir une quarantaine d'idées et d'arriver justement à quelques mesures qui vont être véritablement appliquées à la fin de ce processus.
Là, on en a déjà une vingtaine qui sont mises en œuvre. Je pense qu'on va en rajouter 6-7 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Toutes les mesures n'auront pas été adoptées. Tu vois, par exemple, il y avait un quasi-consensus sur le vote à 16 ans aux élections municipales. Bon, pour le moment, il n'y a pas de décision politique dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en aura une dans les prochains mois ? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas grave. Il y avait quand même la liberté d'aller sur des sujets qui n'étaient pas non plus propices à une prise de décision à 100% immédiate. Mais il y a plein de choses qui ont été décidées. Une réforme des bourses étudiantes. Là, cette année, les bourses étudiantes ont été toutes revalorisées de près de 40 euros par mois. Et ça, ça ne s'était jamais fait depuis très longtemps. Il y a des jeunes en lycée professionnel qui nous ont dit on fait des stages, on passe 20% de notre temps en stage en lycée professionnel et on n'est pas rémunéré. Et symboliquement, c'est naze parce que ça veut dire qu'on n'est pas important. Et donc, on a créé une indemnisation pour les élèves de lycée professionnel, entre 50 et 100 ou 100 euros par semaine en fonction de l'âge. C'est pas vraiment pour le pouvoir d'achat, c'est vraiment quasiment plus un symbole, une forme de marque de reconnaissance et de respect. Sur le permis de conduire, il y a des élèves de lycée professionnel qui nous ont aussi dit « Ouais, c'est super le permis de conduire à 17 ans, mais nous, pour le payer, c'est pas simple. » Et puis quand on regarde nos copains qui sont apprentis, eux, ils ont une aide de 500 euros pour se payer le permis. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour nous ? Ouais. Donc on a calculé combien ça coûtait et tac, on fait la mesure. Il y a plein de trucs qui sont sortis d'assez concrets et moi je pense que c'est le bon modèle. C'est-à-dire consultation de manière très libre et ensuite on bosse ensemble pour préparer la mesure. Et derrière, il faut même suivre la mesure ensemble. Et ça, c'est le nouveau combat que j'ai, puisque ce processus-là, il a pris fin à la fin du mois de juin dernier. Il a duré 6 mois, c'était déjà long, on a beaucoup travaillé. Et là, maintenant, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où on va suivre la mise en œuvre des mesures ensemble avec certains jeunes, ceux qui ont bossé sur les protections périodiques, bah, qui suivent. Est-ce que réellement, du coup, ce qu'ils avaient imaginé, on va réussir à le mettre en place tel qu'ils l'avaient pensé, pour aussi qu'ils puissent nous dire attention, là, vous êtes en train de mettre trop de conditions, ou au contraire, ok, c'est bon, ça passe. Par exemple, on a dit qu'on voulait revoir l'éducation aux médias à l'école. Et donc, on va revoir un truc qui s'appelle l'enseignement moral et civique. Tu sais, l'EMC, là, qu'on fait en histoire géo une heure toutes les deux semaines quand on est au collège. Et puis, souvent, ça saute parce qu'en fait, le prof d'histoire géo.
Aucun souvenir.
Voilà. Bah, tu vois, et soit on n'a pas de souvenir, soit on a le souvenir que c'était vraiment un truc sur le côté. Et ça, on a dit, on va le refondre. On va revoir toute la matière. Et on va doubler le nombre d'heures sur le truc. Et ben, on va le faire là dans les prochains mois. On va le faire avec des jeunes directement pour éviter le côté on repense à un programme entre guillemets entre adultes et en fait on a oublié que à la fin les usagers, les clients, si on prend les termes un peu plus du privé, c'est les jeunes directement. Donc ça, on va essayer de le faire ensemble. Et c'est aussi important que de consulter.
Tout ce que tu viens de me raconter finalement, c'est très lié avec le sujet de l'épisode et ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Du fait d'entreprendre au sein de l'État, puisque finalement, démarrer d'une idée et arriver à la création de quelque chose, c'est de l'entrepreneuriat. Comment justement est créé un produit, un service au sein de l'État? On peut prendre l'exemple du Pass Culture, mais j'imagine que tu as d'autres exemples à mettre en avant finalement. Est-ce que tu peux m'en parler?
Je peux t'en prendre un tout récent qui vient justement d'une des propositions là, des jeunes. Y en a qui nous ont dit... C'est super quand on est étudiant, avec la carte étudiante, on a accès à des réductions. Tu sais, quand on va au cinéma, dans les transports, parfois dans des enseignes alimentaires ou autres, on présente notre carte d'étudiant et on a accès à des réductions. Mais en fait, entre 18 et 24 ans, il n'y a que 4 jeunes sur 10 qui sont étudiants. Les autres, ils ne sont pas étudiants. Et donc, il y en a qui nous ont dit « Ouais, mais nous, on n'est pas étudiants, mais on est engagés. » Tu vois, par exemple, on fait ce qu'on appelle un service civique, on fait plusieurs mois dans une association, on se bouge. Comment ça se fait que nous, on n'a pas accès à ces réductions-là? Et donc, ils nous ont dit « Bah, il faudrait créer un produit qui serait une forme de carte pour les jeunes engagés qui ne sont pas étudiants, mais qui se bougent d'une manière ou d'une autre et qui permettrait de faire une réduction. » Et donc là, ce qu'on a fait, c'est on a contacté pas mal de boîtes pour vérifier que le truc pouvait fonctionner. Il y en a une quinzaine qui nous ont dit go, et des grosses, ça va de 10 heures à boulanger pour acheter des ordinateurs en ligne, à Flixbus pour les transports, etc. Donc des trucs un peu sympas. Et donc là, on a pré-testé le concept. Et ensuite, on s'est dit, il va falloir qu'on le développe. Et donc là, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est souvent, on a recours à un truc qui s'appelle les startups d'État, à l'intérieur de l'État, qui est un concept qui assez simple, qui dit on identifie quelqu'un dans l'administration qui a envie d'être un peu entrepreneur du truc, qui va aller porter le projet. Et donc, on a identifié une personne qui s'est dit, moi, je suis chaud, ça me motive, c'est un truc chouette. Et dans ce cas-là, on dit à cette personne, une première chose, on lui dit, tu vas faire une phase d'exploration. Éventuellement accompagné de 2-3 recrues autour de toi pour un peu valider le concept, donc aller le tester auprès de plein de jeunes, auprès d'entreprises en plus. Là, on avait un peu pré-testé le truc, mais t'as quelques semaines, quelques mois, le temps qu'il faut pour en fait faire un peu ton étude de marché, quoi. Vérifier que a priori il y a un fit to market qui est correct. Et là, on rentre dans cette phase-là. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'on a vérifié que le produit qu'on a imaginé, c'est le bon, est-ce qu'on passe par une application, est-ce qu'on fait un QR code, est-ce qu'on a une carte en physique, tu vois, des questions comme ça qui peuvent se poser pour simplifier un peu le parcours utilisateur, on va dire à cette personne, à l'entrepreneur interne, ok, dis-nous quel est ton besoin pour développer le produit. Et là, en fait, on a des marchés avec des freelances, plusieurs boîtes, qui nous permettent de pouvoir mobiliser très facilement un designer, un responsable UX, des devs.
Pour développer le produit.
Et ensuite, une fois que le produit est développé, on essaye de pérenniser l'équipe. Donc c'est assez fréquent que les freelances qui ont bossé sur le projet, si jamais ils trouvent que c'est cool, bah en fait ils finissent par être recrutés. Et à la fin, en fait, on a une équipe qui s'installe et qui va développer un produit. Tu citais tout à l'heure, je crois, le Pass Culture, qui est cette aide de 300 euros pour les jeunes à l'âge de 18 ans pour pouvoir avoir accès à des biens culturels. Le Pass Culture, c'est exactement le processus qu'ils ont suivi. Il y avait dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, il y avait le concept. On avait à peu près testé le truc. Il y avait l'idée de 500 euros pour les jeunes pour avoir accès à la culture. Voilà. Et ensuite, pendant un an et demi, ils ont fait une exploration pour vérifier le truc, pour savoir un peu est-ce qu'on fait 500 euros ou est-ce qu'en fait on fait 300 euros à l'âge de 18 ans et 20, 30 puis 30 euros à 15, 16 et 17 ans, ce qui est en fait la formule qui a été retenue. Est-ce qu'on se contente d'une aide individuelle ou est-ce qu'en fait on va aussi aider les équipes éducatives avant l'âge de 15 ou 16 ans à faire des sorties scolaires pour faire découvrir aux gamins des trucs culturels, etc. Donc ils se sont posé plein de questions, ils se sont demandé comment ça pouvait fonctionner, est-ce qu'on faisait une carte que tu présentes dans les différentes enseignes, ou est-ce qu'en fait on fait un truc sur une seule application tout intégré pour pouvoir acheter sans débourser jamais 0 euros, parce que tu pouvais aussi imaginer un système de remboursement. Bref, ils ont réfléchi pendant un an et demi, ils ont validé un concept, ils l'ont développé, et ensuite ils continuent à le déployer, à le tester. Bon, maintenant, il y a quasiment 80% des jeunes qui l'ont téléchargé d'une manière ou d'une autre. Franchement, ça marche super bien. Mais on s'est rendu compte quand même les deux premières années que globalement, les jeunes faisaient beaucoup d'achats de manga et de cinéma. Et donc, il y avait un petit côté super cool, mais en même temps, un peu d'effet bulle. Tu vois, on reste un peu dans ce qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça qu'on a développé l'équipe, nous a proposé au bout d'un an et demi de développer ce qu'ils appellent une part collective du Pass Culture, c'est-à-dire vraiment cette idée de filer de l'argent à chacune des classes, de collège notamment, pour permettre de faire des sorties scolaires. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes prof dans une classe au collège, vous avez 25 euros par élève de la classe pour pouvoir faire des sorties ou des accueils de personnalités dans l'année. Et là, avec l'idée que bah voilà, vous allez aller découvrir d'autres trucs, quoi, de l'opéra, du théâtre, etc., que parfois, spontanément, si on vous donne l'argent à vous, François ou Mathieu, âgés de 15 ans, on va peut-être pas aller s'envoyer du ballet ou de l'opéra, tu vois. Alors que peut-être qu'on va kiffer si on y va. Et voilà. Et c'est ça le fonctionnement de ces startups d'État. Et c'est assez cool parce que c'est un fonctionnement très itératif qui, sincèrement, ressemble pas mal à ce que moi j'ai connu dans le privé avant. Ouais. Quand tu crées une boîte, t'as des retours utilisateurs en permanence et tu testes.
Le process est finalement assez simple. C'est-à-dire que ça part d'une idée. Ensuite, est nommé un chef de projet, on va dire.
Exactement.
Ensuite, phase d'exploration.
Exactement.
De développement, de test et potentiellement de...
Et ensuite, tu déploies et pendant le déploiement, tu continues à ajuster en permanence le bidule parce que tu as des retours utilisateurs. Et c'est les freelances qui travaillent en dev ou autre pour ces startups d'État. C'est aussi des freelances qui travaillent souvent pour des boîtes privées, pour des grosses startups ou pour des grosses entreprises. Et donc, et on applique les mêmes techniques, c'est les mêmes infrastructures techniques derrière. Il y a des NPS pour calculer la satisfaction des usagers sur les applis. On corrige quand le NPS il est naze, il est à 10 ou 20, on essaye de l'améliorer pour l'amener le plus proche possible de 100, etc. C'est les mêmes techniques que par ailleurs. Il y a de la B testing, de temps en temps tu prends deux pages différentes, tu testes la couleur rouge, la couleur jaune, tu fais le test pendant une semaine et à la fin tu vois ce qui a le plus fonctionné, etc., etc.
Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans pas mal de projets entrepreneuriaux. Moi, le terme startup d'État, c'est un terme que j'ai découvert en échangeant avec toi. Et du coup, en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait 42 services créés, ce qui est assez énorme, dont notamment, alors je connaissais pas non plus, mon parcours psy, l'accès à un accompagnement psychologique pour tous dès 3 ans, ou encore nos gestes climat permettent le calcul de son empreinte carbone individuelle et le passage à l'action. Ces services, ils sont communiqués de quelle manière ?
De manière insatisfaisante. Mais non, mais tu vois, parce que en fait, vraiment, c'est des services super cool. Je prends juste 20 secondes sur mon parcours psy. Aujourd'hui, à partir de l'âge de 3 ans, vous pouvez chaque année avoir accès, si vous avez besoin, à 8 séances de psy gratuites. Voilà, personne n'est au courant. Voilà, on le voit dans les chiffres d'utilisation du bazar. Alors, il faut passer par le médecin traitant en plus. Donc ça, on va le faire sauter la condition. Tu pourras passer demain par ton infirmier ou ton médecin scolaire. Mais le truc est vraiment sincèrement super cool et hyper utile. Mais il n'est pas assez connu. Et il n'est pas assez connu parce que pour la communication, c'est pas simple. Il y a de l'argent qui est dépensé. Et l'État communique et plus ou moins bien. Il y a des parfois les bons canaux sont pas toujours bien utilisés. Mais sincèrement, moi j'ai participé à plein de campagnes de communication. Tu fais appel à, tu fais des contenus sponsorisés sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Oui, on a fait des. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais avant de travailler ici, moi je m'occupais d'un programme qui s'appelait Un jeune, une solution, qui était un programme d'aide pour les jeunes pendant la crise du Covid. Et pendant cette période-là, on a fait plein de trucs. On avait fait des pubs pendant des coupures pubs de Koh-Lanta. On a fait des émissions sponsorisées sur C8, etc. On a fait pas mal de choses. Mais ce qui manque souvent, c'est que ça reste quand même des moyens de communication. Enfin, ça reste du push un peu forcé. Ce qui nous manque, c'est deux trucs. Il nous manque des relais. Par des personnalités qui parlent spontanément à des jeunes. Ça peut être des créateurs de contenu, ça peut être des artistes, ça peut être des sportifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire connaître ces trucs-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, moi, un de mes boulots ou une de mes obsessions du moment, c'est de mobiliser au maximum autour des jeunes. C'est pas pour le plaisir de mobiliser, c'est justement pour que ces dispositifs-là, ils soient connus. Et pas que, tu vois, moi, je rêve qu'un jour, Kylian Mbappé, il dise, au fait, vous pouvez avoir accès à un psy gratuitement, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site-là. Et j'attends pas de lui qu'il dise, j'attends rien de lui par définition, il est un peu dans des sphères où je suis pas, mais tu vois, j'attends même pas de lui qu'il dise c'est grâce à je sais pas qui, tel ministre, on s'en fout. C'est juste, c'est un dispositif cool, il marche, enfin il peut marcher, utilisez-le. Et ça peut être des dispositifs qui datent d'il y a 10 ou 15 ans, hein, on s'en fout, mais les trucs sont pas assez utilisés. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le premier truc qui nous manque, des personnalités qui fassent davantage le relais, et c'est à nous de créer tu vois, ce lien-là. Et le deuxième truc qui manque un peu, c'est que toutes ces aides-là, aujourd'hui, il faut que toi, t'ailles les trouver. Alors, on a facilité un peu le truc il y a 2-3 ans, où on a créé justement un site qui s'appelle unjeuneunesolution.gouv.fr. Mais en gros, on a essayé de créer un endroit où tu as accès à plein de services facilement. Je cherche une aide, je cherche un stage, je cherche un emploi, pam pam. Et tu vas pas avoir accès à des fiches pour t'aider à trouver un stage. Non, tu vas avoir accès à une banque de stages. Poum, 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 30 000 offres en permanence pour trouver ton stage, etc. Mais ça reste quand même un truc où on demande à la personne de venir sur le site. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à développer prochainement, je sais pas si je vais y arriver parce qu'il faudra il faut que j'arrive à convaincre et puis il faut des moyens, c'est un truc qui te fasse du push spontané. Tu vois, on reçoit tous des alertes sur notre téléphone. Moi, j'aimerais bien que t'aies dans la poche un truc qui tout d'un coup te dise « Salut François, t'as 18 ans. Au fait, n'oublie pas, t'as le pass culture. » Moi aussi, j'aimerais bien retourner à cette époque-là, mais ouais, vas-y, on imagine, on a 18 ans, on est là et on reçoit sur notre téléphone une notif qui nous dit « Coucou, t'as 18 ans, est-ce que t'as pensé à demander ton pass culture ?» Poum. « Salut, t'es en 5e, est-ce que t'as pensé à faire ta vaccination contre le papillomavirus ?» Tu sais, ce truc qui génère des cancers de l'utérus, etc., et sur lequel on est en train de se mobiliser. Coucou, tu deviens adolescent, ta vie sexuelle commence à se développer, au fait, t'as des préservatifs gratuits si t'as besoin, oublie pas. Salut, t'es une jeune femme, protection périodique remboursée, réutilisable, etc., etc. Ou hop, je viens de voir que tu viens d'arriver en lycée professionnel, oublie pas ton aide de 500 euros pour le permis de conduire. Pam, pam, pam. Et ça, je pense qu'on peut largement s'améliorer, évidemment sans être intrusif, c'est-à-dire évidemment si tu veux pas recevoir les alertes, tu dis écoutez, arrêtez de m'embêter, salut. Mais je pense que ça, on peut progresser pour le balancer spontanément à tout le monde. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire.
Une sorte d'app citoyenne finalement.
Ouais. Et avec des avis citoyens pour améliorer le truc, développer tel ou tel nouveau service. C'est pas simple à faire. Mais c'est jouable. Tu sais, on est en train de le développer. On a fait ça sur un truc qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, quand t'es jeune et que t'as pas de job, on te propose d'être accompagné par Pôle emploi ou les missions locales qui sont les organismes qui accompagnent vers l'emploi en France. Et pour les jeunes qui sont accompagnés, on leur propose d'avoir accès non seulement à une rémunération, parce qu'ils ont plus de 500 euros par mois pour ceux qui en ont besoin, et on leur propose aussi d'avoir une appli. Pour justement leur pousser régulièrement des offres et autres. Et tu vois, t'as un truc tout con. Par exemple, je cherche une offre d'emploi de boulanger. Je cherche à Chinon. Voilà, j'arrive pas à trouver. Si 2 semaines après, il y a une offre d'emploi de boulanger qui est balancée sur le site Ingénie Solutions, tac, je te mets un pop-up qui dit au fait, t'avais cherché il y a 2 semaines une offre de boulanger. Vas-y, là il y en a une qui vient de tomber. C'est ce qui existe sur les sites, je sais pas, de recherche immobilière. Ouais. On a tous fait ça, je pense, à un moment. On met des alertes et puis on a des trucs qui correspondent aux caractéristiques. Je voudrais un 25 mètres carrés à Paris qui est dans tel arrondissement, et puis boum, tout d'un coup t'as le truc qui tombe. Et ça, je pense qu'on peut le développer beaucoup mieux, et ça marche assez bien sur l'application des jeunes qui sont en contrat d'engagement jeune. Je pense qu'on a quelque chose à creuser là-dessus.
Hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet avant qu'on passe à la partie d'après ?
Non, mais juste dire qu'en fait, l'entrepreneuriat dans l'État, c'est quand même possible. Et ça marche. C'est-à-dire qu'on a ce mode un peu agile, il existe. Et peut-être qu'il y en a qui nous écouteront en se disant « Oulala, ouais, mais l'État, ça ressemble quand même à des bureaux avec des dorures et tout. Ça peut ressembler un peu à ça. C'est parfois pas facile en prise de décision, mais il y a des poches de création de services comme ça qui sont super chouettes, et on a encore plein de trucs à développer. Mais Geste Climat, par exemple, ça te permet de calculer ton empreinte carbone. Faudrait que demain l'application elle te dise aussi tiens, et si tu veux acheter un vélo, t'as telle ou telle aide, et si tu veux réparer ton vélo, t'as telle ou telle aide, et si tu veux prendre le train, t'as telle ou telle aide, etc. Il y a plein de trucs à développer. Donc le message, c'est franchement, c'est quand même assez cool aussi d'entreprendre dans l'État. En gros, faites du public, faites du privé, baladez-vous. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait, et c'est assez chouette à faire.
Bah, c'était aussi l'objectif de ce podcast, puisque l'idée, c'était de mieux comprendre aussi, tu vois, le fonctionnement en interne sur un sujet qui, comme je l'ai dit au début, est absolument pas du tout abordé dans les podcasts business, on va dire. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant à mettre en avant. On va pouvoir passer à la troisième partie du podcast, l'avant-dernière, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec 3 petites questions. Le premier, c'est: est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ?
Ouais, il y en a une qui m'a marqué, qui est assez récente. Il y a un type avec qui j'ai bossé pendant 2 ans, qui s'appelle Thibaut Guilluy. Thibaut Guilluy, c'est un entrepreneur social à la base, qui est devenu au bout d'un moment un poste un peu comme les délégués interministériels que les gens comprennent pas trop, qui est haut commissaire à l'emploi. Et j'ai bossé avec lui, justement sur ce que je disais tout à l'heure sur un jeune, une solution. Et ce type-là m'a appris une chose immense. Il était en permanence en train de me dire: Mathieu, il faut qu'on fasse en collectif, il faut qu'on fasse en collectif, on est fort que ensemble, on est fort que ensemble. Évidemment, j'avais ça en tête, mais à force de se le répéter, c'est quelqu'un qui m'a permis d'avoir ce réflexe-là maintenant. Dès que je fais un truc, je me dis toujours, si je suis tout seul, ça marche pas. Je veux être avec plusieurs, à la fois pour des questions de compétences, parce que j'essaye d'en avoir le maximum, mais je les ai pas toutes, loin de là, et pour des questions de plaisir, parce que franchement, c'est toujours plus chouette de le faire à plusieurs, et aussi pour des questions d'impact. Parce qu'à la fin, en fait, plutôt que d'être un seul ambassadeur du sujet, tu te retrouves à plusieurs. Donc ça, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Et puis, une autre, si je peux, j'avais un prof, quand j'étais en quatrième, un prof de français qui s'appelait Monsieur Mans, qui m'a fait découvrir l'amour des mots, qui trouvait que j'étais un bon élève, mais que je parlais pas assez. Et qui m'a forcé à réciter des poésies, des trucs, des machins. Il m'a fait découvrir les exercices de style de Raymond Queneau, etc. Ça parlera pas forcément aux auditeurs, mais c'est des. Il m'a fait jouer avec les mots, et ça a changé littéralement ma vie. Ça m'a donné confiance en moi pour pouvoir m'exprimer. Et derrière, du coup, ça m'a donné accès à des horizons plus entrepreneuriaux, politiques, avec confiance. Ça m'a aidé à passer des concours ou à intégrer des écoles bien ensuite. Et surtout, ça m'a fait, à côté de ça, découvrir l'amour des mots, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, à côté, je fais beaucoup de slam, mais c'est un truc qui me rend heureux. Donc, il m'a aidé à être heureux.
Ok, c'est quand même assez cool. Ce qui est important. Ouais. qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ?
C'est la rencontre avec soi-même. Je pense que ça permet de se rencontrer à 100%. En fait, à un moment donné, quand t'entreprends, t'es le responsable. Tu peux le faire à plusieurs, évidemment, mais t'es quand même le responsable de ton bateau. Tu peux toujours renvoyer aux circonstances pour justifier tel ou tel truc, mais à la fin, c'est toi et toi-même. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau. Et moi, c'est pour ça que je pousse tout le monde à faire à un moment donné un bout d'entrepreneuriat. Alors, ça peut être créer une entreprise, une association, un projet à côté, un objet, on s'en fout. Mais je trouve que c'est se rencontrer soi-même. Moi, je le mets dans la catégorie, tu sais, t'avais Hannah Arendt qui disait que l'être humain se réalisait en créant. Elle mettait l'art au-dessus de tout. Pour moi, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat, c'est un peu se dépasser soi-même. Et je trouve que c'est ça que ça apporte.
Ouais, je suis très aligné avec tout ça. Comment est-ce que tu relis le pro et le perso?
Difficilement. C'est alors, je sais pas ce que tu entends par relier, mais alors l'équilibre public.
Parfois, on le fait pas. Hein. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit, pour moi, c'est une seule et même chose.
Ouais.
Et je fais comme je peux.
Ouais, alors moi, je pense que je fais partie de la catégorie de je fais comme je peux. Honnêtement, c'est un peu rock'n'roll si on parle d'équilibre. Là où je le relis, c'est que depuis que je suis délégué interministériel à la jeunesse, il y a plein de rencontres que j'ai faites dans le perso des dernières années qui me sont hyper utiles dans le pro d'aujourd'hui. Moi, je suis un obsédé absolu de l'égalité des chances. Je passe ma vie depuis des années, les week-ends dans les quartiers qu'on appelle populaires, Cergy, La Courneuve, les quartiers nord à Marseille, etc. Et en fait, j'ai rencontré dans ce cadre-là plein de gens avec qui je prenais du plaisir à aller me balader les week-ends ou faire des bêtises avec des jeunes, avec que je retrouve aujourd'hui dans mes fonctions. Donc moi, ça se mélange en paix. Tu vois, on parle d'entrepreneuriat, par exemple, je suis devenu copain il y a 5-6 ans maintenant avec un type génial aussi qui s'appelle Moussa Camara, qui a créé une association qui s'appelle Les Déterminés et qui accompagne les jeunes des quartiers vers l'entrepreneuriat. Moussa, c'est un ami depuis 5-6 ans et au départ, on se baladait ensemble parce qu'on était potes. Et puis maintenant, on peut bosser ensemble parce que lui fait de l'entrepreneuriat pour les jeunes et que moi, je suis de l'autre côté de la barrière, du côté du public et qu'on a des trucs géniaux à créer. Donc ça, c'est un des ponts. Et l'autre pont, c'est aussi l'expression, tu vois, régulièrement. Maintenant, ça m'arrive de faire des interventions où je sens que le discours institutionnel, ça va être un peu chiant. Et où du coup je fais une minute d'impro en slam, tu vois. Et ça permet de passer un message. Et moi, ça me fait un peu marrer. Souvent, c'est plutôt bien accueilli. Parfois, c'est réclamé d'ailleurs. Et ça, c'est super. Ça, c'est génial. Quand tu peux un peu marier les deux, c'est magnifique.
Ouais, ok, super. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Quand j'ai besoin d'aller mieux, je ramène les potes.
Ok.
Aussi simple. Entourage.
C'est quoi ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrête d'être divisé. Mon plus grand rêve, c'est... Là, pour le coup, c'est un rêve collectif. C'est même pas un rêve perso. Du coup, c'est ce qui me rendrait un peu heureux. Je voudrais qu'on arrive à retrouver... Là, c'est un truc de vieux, mais tu sais, l'esprit de France 98, là. Le Black Blamber.
Je le jouais très bien.
Tu vois le truc? Et putain, l'an prochain, on a les Jeux Olympiques à Paris. J'aimerais bien qu'on arrive à retrouver ça autour du JO.
Et c'est quoi ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, c'est de perdre mes proches, notamment mes parents.
Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Tu l'as probablement déjà lu, mais si c'est un homme de Primo Levi.
Ok, je note.
C'est pas un bouquin d'entrepreneuriat, mais c'est le bouquin d'un type dans un camp de concentration qui raconte comment il avait réussi à s'en sortir. Et toujours dans l'idée des figures qui nous ont inspirés, moi j'avais un grand-père qui avait fait le service du travail obligatoire à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne, qui m'avait raconté ces histoires-là très tard parce qu'il était très pudique là-dessus. Et ça m'avait toujours marqué. On vit dans une époque qui est compliquée. On n'a pas tout à fait confiance dans le fait que le monde demain sera meilleur que le monde actuel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans, les types, ils étaient de nos âges, ils étaient en train de faire la guerre, quoi. Donc de temps en temps, on peut relativiser un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses graves qui se passent aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier ça.
Oui, et puis il y a un devoir de mémoire qui est important aussi.
Super important. Et là, en plus, les derniers témoins de cette période, ils sont en train de s'éteindre. Et on va rentrer dans la partie compliquée de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va être porte-parole nous-mêmes d'une période qu'on n'aura pas vécue physiquement. Mmh. Et c'est le plus compliqué parce que tu sens que les souvenirs, ils peuvent s'étioler. Ouais. C'est pour ça que c'est pas juste de l'autoritarisme un peu naze quand on parle de devoir de mémoire et tout, c'est un peu un truc important.
Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller ?
Écoute, là j'ai vu il y a pas longtemps les voleuses là de alors je sais pas si c'est le titre sur Netflix. Non, Banlieusard 2. Va voir Banlieusard 2 sur Netflix. Okay, tu vois ou pas le film de Gary James?
Je visualise le film mais je l'ai pas vu.
Voilà, ouais. Banlieusard 2, c'est interpellant.
OK.
Et c'est écrit par un des types qui écrit le mieux aujourd'hui en France, qui est Kerry James, qui est un rappeur, artiste et autres. Voilà. Et va écouter Kerry James aussi.
Ok. J'irai.
À la République. Ça frappe,
oui,
mais c'est
ça
bien.
Je connais. Ouais. Voilà. J'irai regarder ça. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Ouais.
Dis-moi.
Est-ce que tu aurais une question à me poser, Mathieu?
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que. C'est la question d'après. C'est une question que j'ai rajoutée cet été, qui s'appelle la question reverse. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser ?
C'est énorme. On peut le dire, c'est pas du tout concerté. Hein.
Exactement.
Je vois pas du tout ce qui est écrit sur ton iPad. Alors, est-ce que j'ai une question que j'aurais envie de te poser ? Ouais, c'est quoi toi ton plus grand rêve ? Moi, j'aime bien le rêve des gens parce que ça touche à l'intime absolu.
Je pense que c'est d'impacter le plus de gens à travers les parcours que je vais mettre en avant sur le podcast. Alors, c'est un rêve très relié au podcast. Mon rêve, il peut évoluer, tu vois, au fil des années. Mon rêve perso, je t'avoue que j'en ai absolument aucune idée.
Faut qu'on fasse gaffe tous les deux, parce qu'on a répondu tous les deux à la question sur le rêve avec des rêves collectifs. Ça, tu vois.
C'est-à-dire que, voilà.
Genre, les gars, ils s'oublient. Tu vois, sur le pro perso, on n'est pas encore au bon niveau. Là,
ouais,
au bon
je pense qu'il va falloir y réfléchir.
On va se poser les bonnes questions.
Et se dire, OK, quel est mon rêve personnel? Mais non, c'est une question difficile. Et à laquelle je n'ai pas encore de réponse.
Ça marche, je suis content de te l'avoir posé. Merci de m'avoir donné cette possibilité.
Bah, merci à toi pour cette question. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Alia, c'est Mia qui est une entrepreneuse de je crois qu'elle est bien de rentrer en seconde.
Ah, je vois qui c'est.
Elle est exceptionnelle. Elle essaye de développer une application en réalité virtuelle pour s'immerger dans des cas de harcèlement et faire des roleplay et faire de la sensibilisation sur le harcèlement des plus jeunes. Franchement, elle est super. Et je peux t'en donner un deuxième. Ferris Barkat, qui est un jeune de 20 ans, 21 ans maintenant, je pense. Qui a créé il a créé une association qui s'appelle Banlieue Climat avec deux camarades que je vais citer aussi, Abdel Ali et Sana, qui sont géniaux également, et ils essayent de sensibiliser, de développer des petites certifications, des formations pour tous les jeunes des quartiers sur l'écologie. Tu sais, c'est un peu, ils prennent le truc un peu à rebrousse-poil. Quand on parle de quartier, on parle pas souvent d'écologie. Et ils ont dit, c'est bon, ça suffit maintenant. On va arrêter de parler que de rap et de foot quand on parle de nous. Vas-y, on va parler d'écologie. Ouais. Donc, Alia et Ferris.
Ok, bah, je note les recos. Des sujets hyper importants et intéressants. Ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Un entrepreneur, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui accepte de pas savoir exactement où il va. Qui se dit je vais aller découvrir les Indes et puis je me retrouve aux États-Unis quoi. C'est un peu ça. Et pour moi, un entrepreneur, j'espère que demain ce sera évidemment quelqu'un qui va se rencontrer lui-même pendant son parcours, mais qui entreprend pour les autres. Je pense que c'est le truc qui nous manque encore aujourd'hui dans le système entrepreneurial français. Il n'y a pas encore assez de boîtes qui ont un impact collectif fort d'intérêt général. Il y en a, hein, attention, et puis c'est pas facile, c'est pas une critique, mais je pense qu'on peut faire mieux sur ça.
Voilà. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Mathieu, j'espère que ça t'a plu. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est un maximum de réussite dans toutes tes activités.
Merci beaucoup, c'était cool.
Merci Mathieu.
Ciao.
Salut.